affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Au cours de cet été particulièrement caniculaire, chaud, nous avons eu l'idée, au sein de l'équipe de Canal Academy, de réaliser une émission sur le réchauffement climatique. Nous est alors venu le souhait de faire intervenir un membre de l'Académie des sciences sur l'avis sur la transition énergétique que l'Académie des sciences a rendu public le 6 janvier dernier. Mais en consultant cet avis, nous sommes rendus compte que nous étions tombés dans la trappe à simplification. En effet, la transition énergétique n'est pas un sujet totalement lié à celui du réchauffement climatique. Nous le verrons avec notre invité Michel Combarnous. Michel Combarnous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant de l'Académie des sciences, membre de l'Académie des technologies et professeur émérite à l'Université de Bordeaux. Et vous avez participé au groupe Prospective énergétique. Vous êtes membre du groupe Prospective énergétique de l'Académie des sciences, qui a bien sûr préparé cet avis. Comme je le disais, la première surprise, c'est que généralement dans les grands médias, on lit les deux sujets, celui de la transition énergétique et de la loi qui porte ce nom, au sujet du réchauffement climatique. Or, le sujet est bien plus vaste. Il a des implications d'autres natures. Comme la géopolitique, l'indépendance énergétique, peut-être la santé publique et bien d'autres. Pouvez-vous tout d'abord nous poser cet enjeu de la transition énergétique dans ses grandes lignes ?
Oui, alors avant même la transition, regardons un peu les consommations d'énergie dans le monde. C'est un des points importants, mais il y a le traitement des déchets, il y a le traitement de l'eau, il y a plein de choses de ce genre, mais c'est le même type de problème. Et vous avez raison de souligner que ce n'est pas uniquement lié au problème de réchauffement climatique. Le problème de l'énergie, il est lié aux ressources en énergie. Il est de bon ton de parler des ressources fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz, et qui sont en train de diminuer fortement, au moins pour le pétrole et le gaz. Et donc l'avenir de la planète en termes de consommation d'énergie est posé. La consommation d'énergie moyenne, elle est très très hétérogène. Hein. En moyenne, l'humain moyen consomme l'équivalent d'une tonne d'équivalent pétrole par an, ou plutôt d'une et demie à peu près. L'Américain, le Canadien de base en a 7 ou 8. Et puis dans des pays comme la Tunisie ou autre, où j'ai passé 5 ans il n'y a pas longtemps, on en est à 0,5, 0,6, 0,7. Donc cette soif d'énergie liée à l'évolution de la population, qui croît en plus, ne l'oublions point, et pose un certain nombre de problèmes qui sont un peu indépendants et liés parfois avec le problème de réchauffement climatique, surtout si on consomme beaucoup de fossiles, c'est-à-dire qu'on dégage beaucoup de CO2.
Le premier problème est donc celui d'une ressource rare pour laquelle il faut trouver des substituts.
Des substituts ou qu'il faut faire évoluer. Alors évidemment, on est très surpris par ce genre de choses souvent parce que moi je fais souvent cette comparaison dans des cours. On a vu l'émergence des téléphones portables à une vitesse considérable et on s'aperçoit que pour l'énergie, ça va beaucoup moins vite. Mais ça, c'est le mécanicien qui vous parle. La masse n'est pas la même. Entre la masse d'un téléphone portable et la masse d'une centrale thermique, il y a une grande différence. Et la masse donne quand même la vitesse, l'inertie, toutes ces choses-là. Donc les problèmes d'énergie sont des problèmes qui sont longs. Construire un barrage, c'est compliqué, c'est long. Je ne parle pas forcément d'un réacteur nucléaire, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, de toute façon, on a cette inertie considérable qui fait que finalement, il vaut mieux pas trop se tromper quand même. Et il faut faire avancer les choses avec d'autant plus de détermination que ça avance lentement. C'est un peu paradoxal, mais je crois que c'est le point.
Donc, il faut réfléchir avant d'agir et ne pas trop tarder quand même.
Et agir quand même assez vigoureusement. Quoi. Voilà.
Alors, en l'espèce, vous avez évoqué deux possibilités déjà, mais qu'il faut probablement combiner. La première, trouver des substituts à ces énergies fossiles. Et la seconde, faire évoluer leur usage et la façon dont on le consomme, probablement. Peut-on déjà passer en revue les possibilités de substitution qui sont à notre disposition à brève, moyenne ou longue échéance?
Alors avant même, et j'aurais peut-être dû en parler, on a aussi abordé le problème, un problème de la société humaine. Dire qu'on va faire la course à des produits intérieurs bruts de croissance, ça dépend ce qu'on met dans la production intérieure brute. De toute façon, on a un problème de gestion d'énergie. Et les phrases un peu classiques du genre les meilleures économies d'énergie, c'est nos économies d'énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Hein, c'est une phrase assez classique. Je crois que c'est ça le point le plus important, il est là. Il est quand même de faire en sorte que finalement, nous réduisions nos consommations d'énergie. Les gens le font hein, très fortement, même aux États-Unis ou au Canada, je prends cet exemple, ça baissait. Je cite le Canada et les États-Unis parce que c'est facile à retenir. Les Canadiens consomment une tonne d'équivalent pétrole par an de plus que les Nord-Américains. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont plus au nord, donc c'est plus froid, et ils sont moins peuplés, donc ils font beaucoup plus de voitures. Donc entre les maisons et les voitures, il y a un écart de... Donc on voit bien que là, par cet exemple enfantin, que tout le monde comprend facilement, eh bien, c'est la façon de gérer toutes nos activités énergivores qui va compter. D'où les problèmes de transition, le rôle qu'on voit dans l'habitat, l'accent qu'on met dans les lois en disant urbanisme, les bâtiments à énergie positive, toute une série de choses de ce genre. Parce que finalement, ici, nous dépensons un peu d'énergie. Si finalement, c'est à terre un peu chaud, parce qu'on est là, simplement, hein, comme n'importe quelle vache dans une étable en Savoie, nous dépensons tous un watt par kilo. Nous deux, on fait déjà 150 watts qui sont là chauffés bêtement. Si j'ouvre la fenêtre, bah, cet air chaud, il va s'en aller. Si je le fais passer à travers un échangeur, je récupère les calories tout en renouvelant l'air pour moi. Donc là, il y a toute une série de réflexions qu'on voit apparaître petit à petit. Alors... Évidemment, dans un certain nombre de pays développés, mais parfois on a des solutions dans des pays en voie de développement ou en développement qui sont aussi tout à fait intéressantes. Je crois que vraiment, j'ai presque envie de dire, commençons par les économies, ou faisons en parallèle les économies.
Lorsque vous avez prononcé la phrase, l'économie d'énergie la plus efficiente, c'est celle voilà, qu'on l'énergie qu'on ne consomme pas. Je me suis demandé si vous alliez nous vendre la nécessité d'un changement de société. Ensuite, vous avez plutôt
toute façon, il faudrait...
des solutions techniques, ouais. D'aménagement au quotidien.
Vous savez, c'est très difficile. On a pu rêver à un moment donné qu'on était capable de débarquer en Mercedes dans un pays en voie de développement en disant aux gens, pour les économies d'énergie, vous n'avez qu'à rouler en vélo. Le résultat, il est simple, vous faites caillasser votre Mercedes. Donc ça, c'est assez clair. Et donc, toutes ces choses-là, il ne faut pas s'amuser à ce genre de bêtises. Mais il n'empêche... que le modèle classique doit être fortement modifié, retravaillé. Peut-être que les grands immeubles qu'on construit à droite à gauche, on en gère la consommation d'énergie meilleure. Les transports, ça évoluera. Enfin, quand on a connu, moi j'ai connu en 80 des embouteillages de vélos, des blocages complets sur des surfaces comparables à la place de l'Étoile, à Shanghai. Si tous ces braves gens se mettent à rouler en voiture, on voit bien où on va, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Donc c'est un problème d'habitation, on est 7,5 milliards, on sera 9 milliards demain, et encore les populations africaines ont des populations qui sont beaucoup plus croissantes qu'on ne le croyait dans les estimations. Des pays comme le Nigeria où la tradition fait que les gens préfèrent encore avoir 4, 5, 6 enfants, voire 8, alors que partout ailleurs c'est moins, et donc là c'est des données très fortes. Quoi.
Si on ajoute à cela qu'une partie des pays d'Afrique ont une croissance positive en ce moment,
ah bah oui,
on voit ce à quoi ça va mener.
Bien sûr, tout à fait. Mais elle est quand même, elle est en partie consommée par l'accroissement de population. C'est ça qu'il faut voir. Si vous regardez, je ne sais pas, n'allons même pas en Afrique subsaharienne, prenez la banlieue de Tunis ou la banlieue de Tanger, vous avez des constructions d'immeubles, comme on en a d'ailleurs autour de l'Espagne, mais enfin l'Espagne, ça s'est un peu calmé. Et donc là, on a énormément de consommation, l'espèce humaine occupe des gens. Et puis, il y a la façon d'occuper l'espace, qui est un point important. Toutes ces maisons plates sur des terrains, c'est pas l'idéal. Enfin, le modèle haussmannien remonte réapparaît tout d'un coup en disant, mais au fond, c'est peut-être la meilleure façon de gérer une densité de population sur un hectare que d'avoir ces espèces d'immeubles à 5, 6, 7 étages rassemblés. Enfin, c'est un grand débat mondial, ça, l'habitat.
Oui, c'est-à-dire que finalement, ces grandes métropoles qu'on décrivait comme insalubres, anti-écologiques, polluées et autres, finissent par... ressembler à un début de solution.
Ben oui, parce que quand on prend Los Angeles ou autre, ça fait des surfaces terribles. Si en plus, on ne va pas parler d'actualité excessivement, parce que ce n'est pas opportun, mais si en plus vous bétonnez tout ça, vous mettez du goudron partout, dès qu'il pleut, la flotte s'en va un peu partout, et on a les inondations qu'on connaît, je veux dire, c'est pas très original de le constater. Et ça sera de pire en pire, ça.
Non, ça c'est lié au climat aussi ou...
Ça c'est lié au climat, parce que c'est lié. L'étude, il faut réfléchir à cela. C'est un fait que, de toute façon, les températures des mers montent un peu. C'est ce qu'on dit à propos des catastrophes qu'on a vues ces derniers jours. Et à ce moment-là, la masse d'eau est plus chaude, et donc ça contribue à vaporisation de l'air, de l'eau dans l'air, etc., et augmentation des précipitations. Mais il ne faut pas tout lier à tout. Le principal, c'est le problème des hommes de plus en plus nombreux, qui s'installent de plus en plus dans des endroits où, finalement, on n'y mettait que des chèvres.
Pour revenir sur la transition énergétique et la responsabilité de l'homme, là aussi, vous avez abordé un certain nombre de solutions qui sont de l'ordre de l'efficacité énergétique, je crois qu'on appelle ça comme
ça. Tout à fait, oui.
Peut-on passer donc maintenant à la seconde solution, c'est la capacité à trouver d'autres moyens de produire d'autres types d'énergie, éventuellement plus propres ou en tout cas renouvelables. Quelle est la palette des...
Alors la palette, elle est assez simple. Si j'exclus... c'est une façon d'en parler. Le bois, qui était quand même historiquement l'un des premiers combustibles que l'homme a utilisé. J'exclus en les citant, c'est une façon un peu équivoque de présenter les choses. Mais tout ce qui est biomasse, où il y a énormément de travaux qui sont à faire. Après, on a quoi ? On a l'hydraulique. Alors en France, on ne parle plus tellement de l'hydraulique parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup utilisé. On est un pays qui a été très fort, enfin moins abondant que les Suisses pour la montagne, évidente, mais là, on a l'hydroélectricité. Il ne faut pas négliger l'hydroélectricité. Dans l'Amérique du Sud, vous avez des barrages qui se construisent, dont certains correspondent à 4, 5, 6 équivalents de tranches nucléaires, c'est-à-dire des 4, 5, 6 gigawatts.
Donc, si j'ai bien compris, en France, on est déjà quasiment...
Mais nous, on est saturé. On est un peu saturé, on n'a pas beaucoup de lacs en plus. On en parlera peut-être au niveau du stockage d'énergie après. Bon. En gros, l'hydraulique, ça reste quand même un point important, au moins dans le monde, à défaut de nos territoires nationaux français. Alors après, qu'est-ce qu'on a donc ? Ben, on a donc, j'ai exclu bien sûr les fossiles, dont on a déjà parlé. On reste le solaire. Alors sur le mot solaire, il y a plusieurs équivoques, plusieurs expressions qu'on utilise. Il y a le solaire et l'éolien. L'éolien, on peut toujours dire que ça dépend du soleil, parce que si les territoires sont, etc. Bon, alors, on va parler de l'éolien d'abord, peut-être, c'est plus simple. Alors l'éolien, ça c'est quelque chose qui se développe à une vitesse considérable. L'éolien terrestre ou marin. On en est à pratiquement maintenant l'équivalent d'une quarantaine, plus que ça, 80 tranches nucléaires. C'est-à-dire, la tranche nucléaire, on va la mettre à 1000 mégawatts, c'est-à-dire 1 gigawatt, un milliard de watts, et consommer, débiter en permanence. Même si les centrales nucléaires, on les arrête de temps en temps pour l'entretien, on va mettre ça comme ça. Alors, il faut être très clair sur un certain nombre de choses auxquelles les gens, des fois, ne pensent pas ou exagèrent dans un sens ou dans un autre. Une éolienne, ça ne marche pas tout le temps. Ça, c'est clair. Alors, le taux de fonctionnement moyen, de charge moyen, en gros, on admet que c'est à peu près 25%. Autrement dit, si j'ai une éolienne qui fait 4 mégawatts, eh ben, la production moyenne d'électricité, c'est 4 divisé par 4, ça fait 1 mégawatt. C'est équivalent à 1 mégawatt. Bon, donc, si je veux faire 1000 mégawatts, ben, il faut que je mette 1000 éoliennes. Donc ça, c'est un point important. Ça se développe très fortement, comme je vous le disais. Je crois qu'on en est à pas loin de 400 ou 500, entre 400 et 500 gigawatts installés. Je me les divise par 4 pour me les comparer avec autre chose, mais j'ai ça. Ensuite, on a...
Excusez-moi, ça correspond à, par rapport à une centrale nucléaire.
Ça correspond à 45-40, ça correspond à 300, ça correspond à 80 centrales nucléaires. 80 tranches. Les tranches nucléaires, on en a 400 à peu près, 400, 450 dans le monde. Bon, un grand nombre sont en ce moment à l'arrêt, et ça marque un peu le pas, le nucléaire. Il y a très peu de gens qui vous disent que ça va se développer fortement, et bon, je pense que ça marque, et pas que parce que l'EPR de Flamanville ne marche pas trop vite. Mais c'est quelque chose qui a un avenir, à mon avis, assez limité à très long terme. Quoi. Alors, ça, c'est l'éolien. Puisque j'en suis au courant d'air, on peut passer au courant d'eau. Un sujet qui est très à la mode maintenant et qui commence à monter en puissance, pas encore en termes de production industrielle massive, c'est les hydroliennes. L'hydrolienne, c'est le même principe, hein, sauf qu'évidemment, Si vous vous souvenez de l'énergie cinétique, qui est une masse multipliée par un carré de vitesse, puis un petit coefficient à demi devant, eh bien, le masse de l'air, c'est, vous, l'air, c'est plus léger, l'air aéré, gazeux, j'entends, bien entendu, que l'eau liquide. Et donc, effectivement...
Dit comme ça, j'ai mieux compris.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand je prends une grande éolienne qui me fera 30 mètres de diamètre, je ne sais n'importe quoi, hein, par exemple, pour capter la même énergie cinétique dans l'eau de la Seine, que nous voyons, ben, on n'a pas besoin de tant que ça, puisque finalement, un kilo par litre, c'est quand même un peu beaucoup plus que 1,293, je ne sais pas combien, grammes par litre. Donc, les hydroliennes, c'est un sujet qui va prendre beaucoup... Et on peut imaginer de les mettre dans des endroits où il y a des courants permanents. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les courants sont plus ou moins permanents.
Deuxième avantage.
À ce moment-là, par aux intermittences. Et puis après, il y a l'autre secteur qui se développe beaucoup, beaucoup. C'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque, il y a d'autres centrales solaires qu'on peut évoquer après. Mais le photovoltaïque se développe très, très fortement. Alors lui, vous souvenez que j'avais évoqué 25% pour le temps de charge pour des éoliennes. Le photovoltaïque, c'est 12, 13, 14%. Parce que, bon, il y a les jours, il y a la nuit, il y a les alternances, il y a les périodes, etc. Donc ça reste quand même ça. Il n'empêche que ça se développe tout à fait fortement, plus récemment que l'éolien, mais c'est encore quelque chose qui est comparable. Alors on n'a pas autant de tranches nucléaires en équivalent. Quand je dis tranches nucléaires, c'est un peu idiot, je devrais dire des tranches de 1000 mégawatts, quoi, hein, n'importe quoi. C'est pas une centrale à charbon, une centrale à fioul, etc. Et là, à ce moment-là, on a aussi cette montée en puissance qui est très forte, avec aussi un certain nombre de difficultés, de réflexions, et puis l'intermittence qu'on voit arriver en disant « Oui, mais toutes ces énergies, c'est bien gentil, mais c'est pas continu, c'est pas ceci, c'est pas cela. »
Ce qui pose de vrais problèmes quand même.
Ce qui pose de vrais problèmes, mais j'ai ménagé un petit suspense, parce qu'il y a aussi un autre type de centrale solaire qu'on utilise, qui monte en puissance, mais qui sont plus chères parce que plus compliquées. Ce sont toutes les centrales, finalement, à concentration, c'est-à-dire où, finalement, on concentre le rayonnement solaire sur un fluide chaud qui va, après, réchauffer de la flotte, qui va être turbinée. Et à ce moment-là, on est capable, si on stocke cette chaleur de la journée pour la nuit, on peut arriver à des fonctionnements continus. Autrement dit, on peut arriver à collecter le soleil dans la journée, on chauffe une quantité de fluide suffisant, et ce fluide va nous servir à échauffer l'eau et turbiner. Donc, mais par contre, vous imaginez déjà, c'est plus lourd qu'un panneau photovoltaïque ou même une éolienne. Mais c'est aussi une solution un peu d'avenir. Ceci dit, n'oublions pas que la production... et continue peut-être, mais la consommation, elle a toujours des côtés très aléatoires. Et c'est là aussi qu'il faut faire beaucoup de travaux à faire. Donc il y a une inquiétude, le rapport de l'Académie des sciences, l'avis sur la transition le mentionne bien, en disant « attention à ces questions d'intermittence voilà. ». On a un problème de gestion, et on ne sait pas... Alors après, tout le monde vous parle de smart grids, etc.
Ce que j'ai lu, il me semble que c'est dans la vie également, c'est que c'est issu aussi de l'expérience allemande, où la transition était beaucoup plus rapide dans ce sens-là, et où ça s'est traduit. Mais il s'agit d'une transition, après tout. Donc une transition, par définition, c'est jamais parfait. C'est l'objectif ultime qui doit faire rêver et apporter les solutions abouties. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est qu'en Allemagne, ça avait abouti justement dans les périodes où il n'y a plus assez de production en éolien, en tout cas enfin, en énergie renouvelable intermittente, à rallumer des centrales au charbon électrique.
Voire en faire d'autres.
Voire en faire d'autres, ce qui, évidemment, aboutit à des conséquences inverses à celles qu'on recherchait, au moins transitoirement.
Alors ça c'est vrai. C'est aussi peut-être... Le fait que ça s'est mis en place très vite, mais je crois que ça ne doit pas être une raison pour freiner les choses. C'est-à-dire que déjà nous avions ça en France, on a une grande consommation. On ne parle que d'électricité là, hein. Une grande production d'électricité nucléaire, ça c'est clair, puisqu'on est les meilleurs, les plus actifs en pourcentage dans le monde par rapport à tout ça. Mais quand on avait les fameux pics de consommation à Noël, à décembre, janvier, pics qui croissent chaque année très régulièrement, on lançait les centrales à gaz. Parce qu'une centrale à gaz, c'est comme un chauffe-eau, ça s'allume très vite, il n'y a pas d'inertie. Quoi. Et si c'est du charbon, c'est plus compliqué. Quoi. Donc puis les centrales à gaz ont fait énormément de progrès en termes de rendement de par le monde. Donc c'est un point plus important. Donc les centrales à gaz, ça reste quand même un point relativement important. Alors pour l'intermittence, il faut gérer ce genre de choses. Il faut stocker l'énergie. On en stockait beaucoup. Actuellement, on vend l'électricité aux Suisses. Quand on en a trop, qu'ils nous la rachètent d'ailleurs une bouchée de pain et qu'ils nous la revendent plus cher quand on en a besoin. Parce qu'eux, ils ont des lacs.
En quel honneur.
Ben oui, quand vous avez un lac, vous pouvez pomper dans un lac, vous montez de l'eau dans un lac quand vous avez trop d'électricité, et quand vous n'avez pas assez d'électricité, vous faites descendre l'eau, mettez une turbine, vous faites l'électricité. Il faut deux lacs, à deux altitudes différentes. C'est ce que font nos amis suisses en ce moment sur les indicateurs. Vous avez des tas d'indicateurs sur les sites internet, où vous avez les flux échangés d'un pays à un autre toutes les 15 secondes, et c'est plusieurs gigawatts qui sont échangés entre les pays comme la Suisse, la France, l'Allemagne, etc., pour gérer déjà cette intermittence.
Oui, ça c'est un autre point intéressant, c'est qu'il ne faut pas raisonner, lorsqu'on parle d'électricité, en termes nationaux, parce que bien entendu, c'est une cohérence de réseau international, enfin européen en tout cas, et voire peut-être même au-delà de l'Europe au sens UE du terme.
Là, on a d'ailleurs apparemment quelques avantages. On passe son temps à cracher sur l'Europe, mais je pense que c'est quand même un point important. On n'a pas ces espèces de blackouts terribles qu'on trouve aux États-Unis, qui ont toute une série de compagnies différentes les unes des autres. Et je pense que les réseaux européens sont plus cohérents en ce sens-là. Et de ce côté-là, d'ailleurs, les réflexions qu'on a menées avec nos collègues allemands sont intéressantes, parce que finalement, on fonctionne en réseau. On fonctionne en réseau. Et donc, il y a des améliorations à faire partout à ce niveau-là.
Et nous n'avons pas le même climat,
donc tout ça fonctionne. Mais après, on est parti des fois sur des petites choses. Par exemple, on se dit, on a trop d'énergie électrique. Pourquoi on ne ferait pas des chauffe-eau qui chauffent l'eau quand justement il y a trop d'électricité? Ça ne vous empêchera pas de vous raser le matin alors que vous voulez. Mais on aura stocké cette énergie. Plutôt que de l'avoir le moment précis où moi j'ouvre mon eau chaude pour me raser, j'aurai l'eau chaude alors que tu as chauffé 4-5 heures avant. Alors ça a l'air ridicule, on dit on a des petits problèmes comme ça. Le rasage de journaliste de Canal Academy, c'est très intéressant, mais enfin, c'est un peu un détail. Mais pas du tout, parce que le journaliste de Canal Academy, il y en a un certain nombre de millions qui veulent le même problème. Et donc ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça demandera, bien entendu, des systèmes intelligents de gestion de l'électricité, de toute une série de choses, qui petit à petit, c'est ce qu'on appelle les fameux problèmes de smart grids, où finalement on aura une réflexion sur la meilleure gestion de l'électricité. Moi je crois beaucoup à ce genre de choses, et à ce moment-là, on va lisser un certain nombre de consommations d'énergie, et ça résoudra un peu nos problèmes d'intermittence.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que lorsqu'on fait réellement l'effort de prendre une douche un petit peu plus courte, d'éteindre la lumière, d'utiliser des appareils, de ne pas les laisser en tension, d'utiliser des appareils à basse consommation, voilà, on a parfois tendance un peu à se dire, oui, mais enfin, quand on voit le taux de croissance de la Chine, tout ça c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais toutefois, ça vaut le coup d'être mené, peut-être pas à l'échelle mondiale, mais peut-être aussi simplement parce que finalement, pour notre balance et notre équilibre économique et autres, c'est aussi une bonne nouvelle, non? On n'a pas obligé de se donner des objectifs mondiaux pour motiver les gens.
Oui, mais ça fait un peu... J'allais dire, ça fait un peu Hare Krishna. C'est un peu le discours écolo. Moi, je connais des écolos très acharnés, mais qui laissent la lumière toute la journée à leurs jambes.
Il faut les dénoncer, excusez-moi, alors, on n'est pas une radio qui pratique la délation.
On peut leur couper la tête, mais ça ne fera pas avancer beaucoup les choses. Je crois qu'il y a des moments, il faut arriver à des systèmes où alors, il y a la régulation par les prix. Bon, c'est une méthode un peu bestiale, qui en plus a le désavantage de brimer les gens qui ont de petits revenus souvent, et qui ne sont pas forcément les plus attentifs aux problèmes d'écologie. Mais je crois qu'on a des solutions collectives à mettre en œuvre, indépendamment des recommandations envers les gens. Alors ça, on le fait pour l'énergie, parce qu'on en parle. Là, on était plutôt polarisé sur l'électricité, plutôt que le reste. Mais ça vaut pour la consommation de carburant en voiture, ça vaut pour la gestion de l'eau, ça vaut pour la gestion des déchets. C'est clair qu'on a besoin maintenant de resserrer sérieusement les boulons, avant même leur diffusion, ou parallèlement à leur diffusion aux pays qui ont moins de chance que nous.
Au-delà de l'électricité, effectivement.
Au-delà de l'électricité, oui.
On avait évacué le bois au début. Alors finalement, le bois, que faut-il en penser? J'ai plusieurs questions. La première, c'est une énergie renouvelable par nature, à condition de replanter derrière. Mais en termes de bilan carbone, qu'est-ce que ça donne?
Alors le bois, c'est un élément excessivement intéressant. utiliser des tas de fonctions. Par exemple, on sait bien que la forêt des Landes, qui est le deuxième massif européen forestier, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, a été plantée essentiellement pour pomper l'eau du sol, parce qu'il était des landes trop humides, etc. Ce qui veut dire en passant que si on coupe ces arbres pour mettre uniquement des panneaux photovoltaïques, on risque d'avoir des problèmes d'eau dans le sol, soit dit en passant. Donc je crois qu'il y a toute une série de gestions de problèmes parallèles. Mais le bois est important, mais il n'y a pas que le bois. Il y a aussi toute la partie biomasse végétale. Hein. Maintenant, on voit de plus en plus arriver ces petites pellettes en matériaux composites. Finalement, ça revient à ça. Avec des sciures de bois, vous avez des tas de machines qui vous permettent qu'on loue dans les groupes d'agriculteurs pour tailler votre haie. Vous taillez vos haies et ces matériaux sont tout de suite compactés et ça fait des petits combustibles, ça tourne. Donc ça, c'est marche assez bien. Alors, on dira l'inconvénient souvent de ces poêles-là, c'est qu'ils marchent avec un peu d'électricité pour être commandés, donc c'est un peu embêtant s'il n'y a pas d'électrique. Mais c'est un détail purement technologique. Et technologique, je ne sais pas, c'est pas chez moi en mot grossier, hein, c'est pas grave. Mais donc, il y a toute une série de progrès à faire de ce côté-là.
Et en termes de bilan carbone, parce qu'on dit souvent, oui,
mais c'est très polluant, bon, en termes de bilan carbone, il faut...
On a entendu que la mairie de Paris voulait interdire les cheminées.
Oui, et puis je sais qu'aussi, de temps en temps, il y a des écologistes, et pour moi, ce n'est pas un gros mot, et je suis plutôt dans cette vague-là, qui s'émeuvent parce qu'on coupe un arbre ou qu'on coupe une série d'arbres à Grenoble. C'est une histoire récente. Il ne faut pas oublier qu'un arbre, c'est un élément vivant, et que de toute façon, au bout d'un certain temps, il est un peu mort. Mais par contre, il faut le renouveler. Il faut renouveler les arbres.
Justement, en termes de bilan carbone, est-ce que les arbres qu'on plante, finalement, captent davantage de CO2
qu'on
brûle donc, est-ce que c'est positif ou négatif? Si on relance une filière bois, est-ce qu'on pollue dramatiquement?
Le bois, non, vous sortez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez du carbone dans l'atmosphère. Ce carbone dans l'atmosphère, vous pouvez essayer de le stocker quelque part. Hein. Alors on dit, on va essayer, quand on fait de la combustion de fuel, par exemple, ou de pétrole, on va essayer de récupérer le CO2, on peut le faire, ça, puis le stocker en souterrain, etc. C'est des trucs très très compliqués, mais qui peuvent être intéressants, mais dans des cas très particuliers. Dans le cas d'une forêt, c'est très simple. Une forêt, ça stocke du carbone pendant un certain temps. Hein. Le massif des Landes, moi je vais faire une thèse sur ce sujet-là, donc j'ai les chiffres tout à fait en tête. Quand vous coupez les arbres, dans les Landes, vous coupez les arbres à 40-50 ans, quand une tempête ne vous les a pas cassés avant. Et ça fait en moyenne des atomes de carbone qui restent à peu près 25 ans, si on prend celui qui est arrivé la veille au soir, et celui qui est arrivé avec le début de la plantation, pendant 25 ans. Et si vous regardez les produits du bois, et pourtant c'est des pins, c'est pas des arbres, c'est pas du chêne, hein, les palettes, le papier, etc., ça fait presque 25 ans. Autrement dit, forêt plus application, ça sort du jeu de l'atmosphère des atomes de carbone pendant 50 ans. Donc c'est positif. Et c'est effectivement assez intéressant par rapport à une culture, par exemple. Une culture, ben on sait bien qu'il y a une partie, si vous prenez une culture saisonnière, le sol est nu, donc là vous piégez pratiquement pas de carbone, vous prenez le temps de faire votre épi de maïs et puis ça ressort. Alors j'ai pas dit qu'il fallait tout planter des forêts partout, mais c'est vrai que la forêt est un point important. Alors après, il y aura un autre débat, les gens vont vous dire, oui, mais l'albédo va changer, l'énergie reçue du soleil sera absorbée plus, parce que c'est pas comme... Enfin bon, ça devient... C'est très compliqué quand même, comme système. Hein.
La France a pas mal d'atouts, non, pour exploiter le bois, non?
Oui et non. Parce qu'on a... regardez ce qui est arrivé à nos amis grecs, où on sait bien qu'en Grèce, il n'y a pas de cadastre, par exemple, ou très peu de cadastre. En France, on a un très bon cadastre, mais par contre, nos forêts, elles sont coupées en tout petits morceaux. Donc, il y a des tas de propriétaires qui sont propriétaires de terrain, ils ne savent même pas où ils sont. Et une gestion un peu industrielle d'une forêt, ça sous-entend que vous n'allez pas passer votre temps à savoir où est ce demi-hectare-là, à qui il est, où il est. Donc, on a quand même un problème d'organisation de foncier, peut-être regrouper des propriétaires. Enfin, bon, c'est un problème qu'on voit dans les Landes, mais on le voit un peu partout. Donc pour l'instant, le bois d'œuvre, on l'utilise, mais l'exploitation massive des forêts, un problème pas simple. Quoi. C'est un problème sociétal. Quoi. Mais bon.
Ça peut se résoudre aussi, finalement.
Absolument, bien sûr. Ce sont les problèmes sont faits pour être résolus. Hein. Sinon, la vie ne serait pas marrante.
En arrière-fond de tout cela, on sent aussi que toutes ces questions sont parfois l'objet d'instrumentalisation idéologique ou de réactivation de peur, de méfiance, notamment à l'égard, j'y pense, parce que vous savez, technologie n'est pas un gros mot pour moi, écologie n'est pas un gros mot pour moi. Malgré tout, en arrière-fond de ces débats, on sent que, ou dans les tréfonds de l'âme, il y a une opposition qui se met en place, une défiance à l'égard des élites et même des experts, une désespérance au sujet du progrès technologique et de ses capacités à relever ses défis. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion,
je repense à la phrase de De Gaulle, ce cher et vieux pays. Nous sommes dans un pays où, quoi qu'il arrive, les gens ont un pessimisme absolument extraordinaire, à se demander comment ils arrivent à se reproduire, ou ça doit être par distraction, ou je ne sais trop quoi. Mais vraiment, on a un art en France de voir le côté négatif de toutes choses, qui est absolument extraordinaire. Et ça se voit partout. Je ne vais pas parler des conflits sociaux actuels, ou plus ou moins aériens qu'on a sur le dos, mais on a cette espèce de mentalité tout à fait étonnante, qui fait que finalement, on voit tout de suite le côté... on a l'œil critique et puis on sous-entend toujours que celui qui est en face de vous, il est en train de vous rouler, quoi. Alors donc, à partir de ce moment-là, si on n'est pas d'accord, si on ne veut pas travailler avec des gens parce qu'on pense qu'ils vont vous rouler, ou que soi-même on pense rouler les autres, plus un certain pessimisme, on est quand même un pays étonnant. Alors je sais bien qu'on vend des armes, c'est pas forcément idéal, enfin on peut critiquer la puissance française, mais globalement c'est pas un des pays les plus pauvres du monde. Moi, j'ai vécu 5 ans en Tunisie après ma retraite à Bordeaux, dans le sud tunisien. Bon, c'était sous l'époque Ben Ali, mais ça ne change rien aux problèmes particuliers de ces pays-là. La Tunisie, ce n'est pas un pays tout à fait misérable, quand même. Finalement, on voit les gens, ils se débrouillent, ils ont plein de problèmes, mais ils avancent quand même. Il faut avancer, quoi.
Toutefois, vous voyez, je continue à tirer cette ficelle. J'ai l'impression que même en matière énergétique, finalement, on vit encore sur des acquis qui dataient d'une époque qui était un petit peu plus prométhéenne, marquée par davantage d'enthousiasme. En gros, l'après-guerre, la reconstruction, les Trente Glorieuses, le programme nucléaire date de cette époque-là. Je pense que le programme hydraulique, dans une large mesure également. Qu'est-ce qui manque pour retrouver un élan ? Pourtant, c'est quand même un projet qui pourrait être mobilisateur. Tout le monde est à peu près d'accord sur le problème. Ce qui se trouve en face de nous est plutôt enthousiasmant. Et pourtant, non, ça cale, on est dans l'immobilisme, et on a l'impression que... Comment expliquez-vous ça? En tant que scientifique, qu'est-ce que vous ressentez?
On a été très bons pour les grands projets. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le rôle des grandes écoles d'ingénieurs, si c'est le rôle de la Révolution, si c'est le rôle de je ne sais trop quoi. Mais c'est vrai que la France a toujours été un pays de grands projets. Le nucléaire est un bon exemple. Les autoroutes ont été un très bon exemple. Même si Hitler a fait des autoroutes avant que... Pendant des années, les autoroutes qu'on avait, c'était la rocade à Lyon faite par Edouard Herriot et les 50 km Paris-Fontainebleau. Fontainebleau, les moteurs des voitures qui descendaient étaient cassés parce que j'avais roulé 50 km à une grande vitesse. Donc c'était assez impressionnant dans les années 60. Mais après, on a eu des grands programmes, on a développé. Alors, c'est vrai qu'autour de ce qui se passe maintenant, je pense à tout ce qui est informatique, etc., on voit moins la logique grand programme, parce que ça fait... Le grand programme, c'est un objet, un gros objet. Vous faites un gros porte-avions, vous faites un gros machin. Alors, on le voit. Un réseau informatique très compliqué, qui demande beaucoup d'argent, beaucoup de mobilisation de ça, de talent, ça se voit moins. Donc on est peut-être un peu victime de ce genre de choses. Et puis ces grands projets, ils ont aussi leurs inconvénients. Donc, non, je crois qu'il faut qu'on redéfinisse une espèce d'art de vivre un peu différent. Mais les choses passent. Pratiquement plus personne ne s'intéresse à des voitures comme objet de représentation, en dehors de quelques bistrots du 16e où il y a des Ferrari. Trois quarts des gens, ils ont des petits véhicules où ils les louent, même à Paris. Et donc finalement, ça a changé, ça. Très brutalement, finalement. Par rapport à ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut être optimiste.
Vous ne ressentez pas toutefois une forme d'ambiance de désenchantement à l'égard de la technique, à l'égard de la science
On l'a toujours eu. Reprenez les vieilles revues sur le début du chemin de fer, où il fallait commencer avec quelqu'un qui marchait devant avec un drapeau rouge. Il ne fallait surtout pas aller trop vite parce que ça allait traumatiser les vaches. Enfin, il y avait des articles absolument extraordinaires. Dans les années 1900, c'était affolant, quoi. Donc on a toujours eu ça. Je pense que on a cette espèce de... Alors peut-être que c'est notre système de formation. Peut-être qu'on a un système de formation qui est très orienté sur ce qui se fait, la règle de l'art, etc., et passer sur l'imagination de des possibles. Hein. Autrement dit, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on explique davantage le champ des possibles plutôt que la réalité de ce qui se fait, etc. Beaucoup de gens réagissent, on le voit très bien, même y compris dans les domaines scientifiques. On ne l'a pas fait, donc ça ne doit pas se faire, quoi. Et c'est anti-scientifique au possible, cette attitude. Mais elle est quand même, je crois, assez ancrée chez nous, probablement plus que dans d'autres pays. Il y a deux façons de gérer la vie. Vous pouvez dire, vous prenez la devise de la Légion étrangère, qui ose gagne, et puis vous prenez Turgot, moins on sait, moins on doute. Et alors, entre les deux, nous, on est plutôt du côté... Moi, voilà, on est entre les deux, quoi. Alors, je ne vais pas dire que la Légion étrangère ne doit pas être valorisée, mais je crois qu'il faut quand même oser un petit peu, quoi.
Oui, un petit peu d'esprit commando dans ce monde
ouais, voilà,
où tout le monde est plan B.
Les gens sont... Oui. C'est très frappant, quand même. Hein. On le voit avec les étudiants. Moi, en tant qu'universitaire, moi, j'ai toujours voulu être universitaire, donc j'ai fait ça avec... la plus grande délectation toute ma vie, tout en faisant encore souvent beaucoup d'autres choses. Puis j'étais administrateur de la région Renault, j'ai fait pas mal de trucs marrants. Mais les étudiants Erasmus qu'on a, qui viennent nous voir, allemands, espagnols et tout, ils sont beaucoup plus décontractés et beaucoup prêts à accepter n'importe quoi en disant « ce calcul, on va le faire, on verra bien, on connaît pas cette méthode, mais on va se débrouiller, on va la trouver sur Internet, on va faire trois calculs, etc. » Alors que souvent, certains... Alors ça change, hein. Moi, j'ai 75 ans, donc j'ai déjà un peu vieux, pour pas dire très vieux. Mais ça change un peu. Mais c'est cette mentalité qu'il faut changer. Cette espèce de sensibilité à l'innovation, au changement, tout simplement. Quoi.
Récemment, j'ai lu un ouvrage qui développait une notion qui peut recouper, finalement, ce type de projet. C'était la notion d'utopie raisonnable.
Ah oui.
C'est un ouvrage collectif sous la direction de Vievorka sur l'avenir.
Ça, d'accord.
Et la panne d'avenir.
Oui, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'est-à-dire que il faut pas. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. Donc il faut pas. Il faut avoir. Vous savez, dans les anciennes techniques de rallye, on conduisait avec la pointe du pied droit sur l'accélérateur et le talon sur le frein, et on combinait les deux. Pour faire un dérapage contrôlé ou n'importe quoi. Et je dirais, c'est un peu comme ça qu'il faut quand même la vie. C'est-à-dire, il faut à la fois être sur l'accélérateur et sur le frein. Et malheureusement, pour l'instant, les gens voient trop, un peu trop le frein, quoi.
Est-ce que dans la résistance, quand même, parce qu'il y en a une résistance au changement en général, vous l'avez évoqué, mais il y a une résistance particulière au projet de nature environnementale ou d'énergie, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité aussi de la version punitive, un peu père fouettard de l'écologie? Est-ce que les gens n'ont pas l'impression que la vie est déjà assez compliquée et qu'en plus on va venir encore les régenter et les sermonner et leur donner des fessées, et que finalement il y a aussi un petit côté libertaire, hein, c'est-à-dire, écoutez, régler les grands problèmes à la tête de l'État et laissez-moi tranquille, qui dans ma ferme, qui dans mon appartement, qui dans ma villa. Est-ce que finalement... les choses n'ont pas été présentées de façon négative, un peu comme imposées du haut, un peu comme inéluctables, plutôt que comme un grand dessin collectif. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais l'imposé du haut, on le voit tout le temps. Je ne vais pas citer des exemples trop traumatisants, mais je me souviens qu'il y a quelques années, par exemple, on s'était aperçu qu'il fallait réduire la prime aux vaches en montagne. Parce que c'est tous les paysans qui avaient plus de 10 vaches ou 15 vaches en montagne, comme il y avait l'estive et tout, on leur donnait je ne sais pas combien. On va dire 100 euros ou 100 francs, je ne sais même plus quelle était l'époque, peu importe. Alors on décidait que c'est une économie qu'il fallait faire. Donc ça a été décidé à Paris, hein, pas à l'Académie, mais pas loin d'ici quand même. Donc on a supprimé la prime à la vache en montagne. Très bien. Bon, les paysans, ils n'ont pas monté leurs vaches, ils ont vendu quelques-unes. Et l'herbe a poussé en montagne, bien entendu. L'hiver suivant, avalanche partout, parce qu'évidemment, tout ce chaume, ça permet des couches de glissement magnifiques, et ça met tout ça. L'hiver suivant, l'histoire est vraie, hein. L'hiver suivant, on a décidé qu'on allait mettre des désherbants sur certaines graines, qu'on a fait ça en hélico. En hélicoptère, ça coûte plus cher qu'un âne. Hein.
Et donc, là, on a dit... Ça devient franchement
déprimant. Et puis, au bout de 2-3 ans, on s'est dit que peut-être on pouvait remettre la prime de la vache en montagne. Donc ça, c'est typiquement une réflexion extravagante qui vient d'un peu partout. Alors j'en prendrai une autre, mais faut-il le dire ? Mais elle est quand même, je vais le dire parce qu'il faut le... Elle est quand même politique. On a vu récemment des gens qui étaient contre l'homogénéisation des fichiers RSA, etc., tous ces fichiers pour les gens qui ont sur assistant. Parce qu'un certain nombre de gens dans les ministères, je n'ai pas dit les politiques, j'ai dit les administratifs du ministère, avaient trouvé que si on faisait ça, ça coûterait de l'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on simplifiait les choses, les gens qui avaient droit toucheraient leur prime.
C'est assez retors, tout
ça. C'est intéressant, ça. Alors, c'est un gouvernement de gauche, mais ce n'est pas des gens de gauche qui ont fait ça, probablement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'étais plutôt imbécile que de gauche ou de droite. C'est quand même étonnant.
C'est une fabulette vraie, j'ai compris, mais qui explique à quel point il est difficile, effectivement, d'actionner des manettes en pensant qu'on va obtenir tel ou tel résultat.
Oui, tout à fait.
S'agissant du sujet, la transition énergétique, quelles sont, selon vous, les prochaines étapes clés, celles qu'il ne faut pas manquer ?
Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est regarder les choses avec calme, optimisme, en sortant des ornières dans lesquelles on est. Hein, on n'a pas parlé des réflexions à mener sur le nucléaire. On n'a pas évoqué le coût du démantèlement de centrales nucléaires parce que personne ne le connaît. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. On n'a pas parlé de Flamanville, mais c'est vrai que tout le monde commence à parler de génération 4, c'est-à-dire qu'on a fait l'impasse sur le 3. Donc Flamanville, ce n'est pas si bien. Donc il faut rester assez serein par rapport à ça. L'espèce humaine a construit des trucs qui ne marchaient pas. Il y a eu des dirigeables qu'on a marché, il y a eu des hydravions de 100 personnes qui ont volé 2 secondes puis qui se sont crashés. Le programme Concorde n'a pas si bien marché que ça, pour des raisons variées d'ailleurs, qu'on pourrait analyser. Donc il faut imaginer que tout n'est pas éternel, tout peut changer, il faut être assez serein par rapport à ça, beaucoup de réalité. Le travail de gagne-petit qu'on évoquait tout à l'heure à propos des transitions énergétiques, du bois, etc., il faut le faire. Mais ça sera difficile à faire parce qu'il faudrait quand même quasiment avoir l'instituteur Troisième République ou l'imam ou le curé ou le pasteur qui prêche la récupération du bois, la récupération des déchets. C'est des trucs collectifs qui ne sont pas très évidents. Hein. L'espèce humaine marche un peu de manière homogène quand elle marche au pas de loi. Et ce n'est pas particulièrement souhaitable pour une série d'autres raisons. Mais il faut le faire. Je crois qu'il faut quand même le faire parce que je crois qu'il y a des gens qui sont quand même de plus en plus convaincus. Moi, je fais beaucoup de trains entre Paris et Bordeaux, au moins une fois par semaine depuis 30 ans. Quand je dis 30 ans, je veux dire 50 ans. On voit les gens réfléchissent, réagissent. Les voitures sont de plus en plus petites dans Paris quand il y en a de plus en plus. Bon, ce n'est pas uniquement les difficultés de stationnement, ce n'est pas uniquement économique. Il y a des gens qui réfléchissent. Enfin, donc, je crois qu'il faut faire ce travail de pédagogie active. Il faut parler. C'est difficile parce que parler sur l'énergie, c'est tout de suite, on est obligé de coller quelque part une tonne d'équivalent pétrole par an. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? À quoi ça ressemble, etc. Bon, ça fait 1 mètre cube de fioul, quoi. Bon, 1 mètre cube de fioul, toutes les maisons individuelles de banlieue parisienne ont 2 mètres cubes de fioul tous les 2 ans. Donc, on remplit sa cuve de fioul, donc ça fait 2 têtes par an, on voit à peu près. Quoi. On peut arriver à expliquer les choses aux gens, je crois, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça, c'est les efforts permanents. Et puis, pas rater les coches, mais je crois qu'on a toutes les cartes. Hein. Y a de la science à faire quand même encore sur beaucoup de choses. C'est ce que donnait cet avis en conclusion, l'avis de l'Académie, parce qu'il y a plein de choses qui sont compliquées. La gestion des réseaux électriques, on l'évoquait, les nouveaux modes de stockage, on n'a pas parlé d'hydrogène, on n'a pas parlé de plein de choses, sur lesquelles les choses bougent beaucoup. Donc il faut rester très vigilant, et puis pas surtout camper dans des certitudes. Je crois que c'est ça qui est qui est un peu le pire. La seule chose qui est sûre, c'est que tout ça, c'est incertain. Et c'est pas sûr.
En conclusion, gardez le calme des vieilles troupes, pour continuer à filer la métaphore militaire. Faire confiance à la science, probablement un petit peu aussi à la sagesse de l'homme. Et ensuite...
Oui, mais des vieilles
cheminer.
Troupes... Voilà. Cheminer, mais encourager les initiatives individuelles. Les gens, les projets nouveaux, toute une série de choses. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ne reste pas à ronronner sur ce qu'on a cru apprendre et qu'on considère comme des vérités quasiment révélées, alors qu'il n'y a rien de sûr dans tous ces domaines-là.
Voilà bien une attitude scientifique.
On est de l'Académie des sciences.
Merci Michel Combarnous.
Merci.